Radio Django, la rose des vents.
Effectivement, ce soir dans la Rose des Vents, nous vous invitons à un voyage culinaire en Ouzbékistan. Depuis 4 ans, la maison de quartier de la Pontaise à Lausanne propose des ateliers de cuisine animés par des citoyens résidant dans cette région de la cité. Une animation pour créer des liens, Daniel.
Alors oui, initialement cette activité entend permettre aux habitants de se rencontrer, de renforcer les relations de voisinage. Mais c'est aussi l'occasion de voyager, de découvrir des saveurs d'ailleurs et de transmettre des savoir-faire comme d'apprendre.
Daniel, pardon, je me concentre un petit peu mieux. Avant de découvrir donc ces saveurs en détail, ces saveurs de la cuisine ouzbèque, quelques mots peut-être sur cette contrée d'Asie centrale.
Alors, cette république soviétique, post-soviétique, pardon, est connue, vous m'avez troublé, Fabien.
Oui, pardon.
Pour les toits et les portes de Samarcande et les bazars de Boukhara et Tachkent. Et il faut savoir, en fait, que cette république est entourée du Kazakhstan, du Kyrgyzstan, du Tadjikistan, merci, de l'Afghanistan et du Turkménistan. Berceau de la culture antique, l'Ouzbékistan se dessine comme un carrefour des civilisations, des modes de vie, des religions et de la culture. La richesse de ce pays tient aussi à la diversité de la population, des populations qui l'habitent, un héritage fortuit né du découpage arbitraire des frontières orchestrées par Staline dans les années 20, qui n'a tenu compte d'aucune réalité, ni linguistique, ni géographique. Indépendante depuis le 31 août 1991, après la dislocation de l'Union soviétique, cette république reste le pays le plus peuplé de la région, avec presque 33 millions d'habitants. Leur origine multiple participe à l'éventail des mets que l'on peut découvrir en terre ouzbèque.
Et puis, mardi passé, Daniel, vous êtes rendu à la maison de quartier de la Pontaise et vous avez rencontré, entre autres, Raphaël Rabieff, qui anime cet atelier de cuisine ouzbèque. Vos premières impressions sur cet atelier ?
Bien, je suis restée sur ma faim. J'ai pu assister à la mise en place, au découpage, voir frémir les premiers légumes, respirer les premières effluves et tendre mon micro au maître de cette cérémonie, de cette soirée, Raphaël Rabieff. Originaire d'Ouzbékistan, Raphaël est arrivé en Suisse dans les années 2000 après des études en droit, un stage d'avocat et une année au service de la migration. Il a changé de casquette pour ouvrir son garage à Crissier. Après ses journées dans l'huile de moteur, il enfile son tablier pour mettre ses mains dans l'huile de coton, joyau de la cuisine ouzbèque. Curieuse, j'ai commencé par lui demander par quel billet il avait eu connaissance de ses ateliers à la maison de quartier de la Pontaise.
C'est un ami qui m'a parlé de ça et puis en même temps j'ai checké sur internet et je me suis rendu compte que ça devrait être sympa d'y faire partie.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de proposer un atelier de cuisine ? Vous aimez cuisiner de manière générale ?
Ouais, mais c'est plutôt Christine, en fait, animatrice sociale qui pousse un peu les participants ou plutôt les consommateurs en quelque sorte de partager leurs connaissances et le savoir-faire.
Bonjour Christine, comment est-ce qu'est né ce concept d'atelier cuisine ?
Alors ce concept, quand je suis arrivée à la maison de quartier de la Pontaise, il existait déjà. Il y avait eu 2 ou 3 ateliers qui avaient été lancés par ma collègue Manuela Calado. Et moi j'avais une expérience de 13 ans au centre d'animation des Faverges, déjà avec les populations migrantes et les familles. On faisait des ateliers le mercredi matin où tout le monde était là, les personnes âgées, familles avec jeunes enfants. Puis on se retrouvait à 30, petits et grands, autour de la table. Alors c'est vrai que ça correspondait plus à une population qui soit vivait à la maison pour s'occuper des enfants, soit n'était plus active dans le monde du travail. Alors que la formule maintenant des ateliers du soir concerne plus des personnes qui ont ce besoin d'avoir une activité en dehors du travail en soirée.
Mais le premier objectif, ce serait de créer du lien social ?
Alors c'est tout à fait ça, c'est créer du lien social parce que même s'il y a quelques personnes extérieures au quartier, c'est déjà avant tout des personnes qui vivent dans le quartier. Donc ça crée des solidarités par le fait de préparer la cuisine ensemble et de la manger ensemble. Il y a des liens très forts qui finissent par se faire. Et puis c'est des échanges de savoir, c'est ça le plus important. C'est que tout est basé sur le bénévolat. La personne qui propose un atelier, elle va faire les courses, elle va me proposer des recettes, elle va faire les courses elle-même. Après, nous, on la rembourse ou on avance l'argent si elle ne peut pas avoir les liquidités. Et puis, c'est elle qui anime l'atelier. Moi, je m'occupe de toute la logistique. Et il y a, au fil du temps, les usagers qui viennent. Le groupe se renouvelle aussi. Mais il y a un peu ce deal, même si ce n'est pas une obligation, qu'une fois ou l'autre, quelqu'un amène aussi son savoir.
4 ans, combien de pays, en fait, avez-vous reçu dans votre maison?
Ou alors, je ne les ai pas comptés. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu comme pays la France, la Suisse, le Portugal, l'Italie, la Grèce, l'île Maurice, de la cuisine indienne, thaï, vietnamienne, chinoise, des Philippines, l'Équateur, de la Colombie, du Mexique, du Maroc, du Sénégal et de l'Éthiopie.
Raphaël, quel est l'atelier qui vous a le plus plu?
Écoutez, on a vu plusieurs. En tout cas, les cuisiniers syriens étaient quand même assez spectaculaires. On a vu encore congolais, il me semble, sénégalais. Donc chaque pays, en fait, a une certaine particularité. Et c'est pour ça que ça m'attire d'y faire partie.
Alors, nous sommes passés de la cuisine à une cathédrale en raison du batteur qui faisait un bruit infernal. On va pouvoir reprendre tranquillement cette interview. Raphaël, quel souvenir est-ce que vous gardez de la cuisine de votre enfance?
C'était plutôt ma grand-mère qui cuisinait, donc je me rappelle encore ma mère et puis ma tante qui est restée aussi dans mon esprit. Oui, de la cuisine ouzbèque, en fait, elle est, disons, assez épicée et du coup, il contient énormément de viande. Bien sûr, en fonction de votre niveau social, si vous êtes riche, vous en mangez trop. Si vous êtes pauvre, vous en mangez pas assez. Donc, mais si vous êtes quelque part au milieu, c'est aussi agréable d'en consommer une ou deux fois par semaine.
Est-ce qu'il y a une spécialité que faisait votre maman ou votre grand-maman que vous aimeriez transmettre aujourd'hui ici à la maison de quartier de la Pontaise?
Oui, par exemple, comme le plof, c'est une des plats assez typiques de la région d'où je viens. Donc le principe est très simple, c'est du riz avec la viande du mouton, avec quelques épices. En tout cas, cumin reste assez honnête. Les autres épices que malheureusement je ne peux pas vous dire en français, ou gros petrouchka, j'aurais dit en russe quand même. Et la durée de préparation entre 2 et 3 heures éventuellement, si vous êtes assez bien organisé.
Comment est-ce qu'on fait le meilleur plov? Est-ce que le plov de Samarcande est la recette que l'on doit retenir?
Mais écoutez, il y a vraiment milliers de types de plov que vous pourriez trouver. Chaque région, en fait, essaie de faire quelque chose, bien entendu, bon à consommer. Ce qui varie, c'est vraiment la durée de cuisson, les épices rajoutées, éventuellement la viande utilisée. Et puis, et surtout de la durée de friture.
J'ai vu que vous utilisiez ce soir du mouton. Est-ce qu'on peut mettre de la volaille dans le plov?
Mais bien sûr, vous pouvez mettre de la volaille, même du cochon. En fait, les Russes, ils peuvent cuisiner même avec les produits, disons, qui ne sont pas appréciés par la partie musulmane. Ici, on en a quand même quelques-uns et c'est pour ça qu'il y avait une idée de faire halal et puis on est resté là-dessus.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi est-ce que quand on prépare le plov, on aurait le droit de boire de la vodka avant, pendant la préparation, avant le repas, mais pas pendant?
Écoutez, peut-être éventuellement que ça change le goût, si on peut en dire.
Ça, c'est pour les puristes.
Effectivement.
Est-ce qu'on peut dire que le plov est le plat national en Ouzbékistan?
Oui, effectivement. À mon avis, c'est le plat assez commun où vous allez. Peu importe, soit c'est la fête, soit c'est l'enterrement, il y aura forcément le plov à consommer.
Oui, donc c'est un plat que l'on fait à différentes occasions. Quelles sont les spécialités?
En fait, on a déjà cuisiné samsa dans cet atelier à la Pontaise. Il y a bien sûr le chourpa qui pourrait être aussi intéressant, le shashlik, espèce de barbecue, avec une viande marinée d'une manière assez spécifique. Et puis éventuellement, d'autres plats plutôt russes quand même, parce que je vois que...
Il y a beaucoup d'influence russe.
Exactement, parce qu'en fait, la région, comme vous le savez, a été envahie par les Russes en 1968. Et du coup, il y a un fort mélange de cultures, et en même temps, la nourriture reste quand même une des chose la plus commune entre les gens à partager.
Est-ce que vous pourriez nous donner quelques mots sur les épices et l'huile de coton ? J'ai lu dans Passablement d'articles que l'on cuisine avec l'huile de coton. Pourquoi ?
L'huile de coton, mais ça c'est la monoculture de l'Ouzbékistan. En fait, le coton lui-même, qui est déjà depuis des années, disons, 20, comme la région est assez chaude, on en produit en masse, et du coup, ils ont même battu 6 millions de tonnes, il me semble, dans les années glorieuses de l'ère soviétique. En séchant, bien sûr, la mer d'Aral et puis les rivières qui le relient. Ce que, aujourd'hui, l'excès des grains, justement, du coton, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire éventuellement quelque chose qui peut faire nourrir les gens. Donc, au lieu d'avoir de l'huile de tournesol, en fait, on économise le terrain pour éventuellement cultiver du coton et en même temps en profiter. Comme le produit en fait, secondaire, c'est l'huile qui en sort.
À ce qui paraît, cette huile a un goût particulier. On pourra peut-être goûter ce soir.
Ah non, pas vraiment, parce que en Europe, on ne mange pas de l'huile de coton, malheureusement, ou peut-être même heureusement. Il paraît que ce n'est pas du tout si sain que l'huile de tournesol ou l'huile d'olive. Donc, je pense que l'Asie centrale, elle reste un peu à l'écart de ce que nous, on consomme en Europe.
Vous êtes installé en Suisse depuis quelques années. Est-ce que vous trouvez que la cuisine suisse est assez épicé?
Ça dépend des plats, bien sûr. Il y en a certaines qui sont assez spécifiques, mais la plupart, elles sont quand même assez facilement consommables. Ce n'est pas comme les plats indiens, par exemple, ou bien asiatiques, où on n'arrive même pas à manger des fois. Mais ça reste bien, bien apprécié, bien sûr.
Je lisais également qu'en Ouzbékistan, on boit beaucoup de thé, qu'il y a tout un rituel. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce rituel pour servir le thé ?
Le principe est très simple. Il suffit juste d'avoir, bien sûr, une équipe qui va en consommer. Et le reste, c'est juste être dans un endroit assez convivial.
Est-ce que le thé est symbole d'hospitalité en Ouzbékistan ?
Oui, exactement. Chaque personne, en fait, invitée à la maison, bien sûr, elle va recevoir au moins une tasse de thé servie d'une manière, disons, amicale et puis et avec une quantité minime. Bien sûr, avec un sous-entendu, en fait, c'est que plus vous êtes servi, plus souvent vous êtes servi, plus vous êtes apprécié. Donc, du coup, on ne remplit pas la tasse pleine. Et en même temps, donc, la personne peut en recevoir une dizaine, une quinzaine de tasses, si vous voulez.
Donc, plus on nous sert du thé, et plus on apprécie, c'est juste ?
Plus souvent. C'est pas en fait la quantité.
C'est la fréquence.
Exactement. C'est pas la quantité remplie, parce qu'ici, en Europe, si on met un peu, on économise. Si on en met trop, en fait, c'est normal. Chez nous, c'est plutôt le contraire. On met peu, ça veut dire qu'on respecte et on va rajouter encore. Donc, c'est vraiment ce service, en quelque sorte, qui joue plus.
Est-ce que ça a aussi une symbolique dans les relations hommes-femmes ?
Oh, très bonne question. Vous savez, aujourd'hui, la société comme ouzbek, elle est très, très russophonisée. Hein. Il n'y a pas de cette séparation comme en Afghanistan ou bien comme en Irak. Où les hommes sont à part et les femmes sont à part.
C'est une société qui se mélange beaucoup.
Exactement. Donc, du coup, il n'y a pas de parangin. Il y a quand même une certaine libération des relations humaines. Et en même temps, il y a cette facilité que les gens peuvent se mélanger dans un même endroit.
Pour conclure, Raphaël, est-ce que vous auriez envie, après cet atelier de cuisine, d'ouvrir une chaïkana à Lausanne?
Oh là là. Ouais, actuellement, j'ai un garage sur Lausanne où je loue éventuellement des lifts aux bricoleurs, mais et on répare les voitures. Mais ce qui est difficile, à mon avis, c'est entrer dans le domaine que vous ne connaissez pas trop. Parce qu'aujourd'hui, Peut-être ce marché-là, il est à découvrir d'abord avant d'investir. Parce que comme vous le savez, chaque deuxième, ou voire 9 sur 10 projets de restauration, ils tombent dans l'eau. Donc et c'est très, très risqué.
Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui fait le charme justement de Chaïkana?
Il faut avoir le temps. En fait, on vit dans une société de fous, de fois où les gens n'ont pas le temps de s'arrêter et de prendre juste un moment avec son proche ou avec une connaissance quelconque. Ce qui se passe, en fait, c'est que ici, je pense, ce sont les bars. Mais bon, dans les bars, on ne veut pas trop parler non plus. Donc, les gens, je pense, en profitent plutôt au bord du lac, avec un budget, disons, minimal, et en même temps avec une nature merveilleuse.
Mais ce qui fait le charme de la Chaïkana, c'est parce que c'est un bistrot populaire où tout le monde peut se retrouver.
La tradition, vous voyez, c'est qu'ici, pour attirer les gens, par exemple, dans un endroit sous les arbres, étalé sur les avec les coussins allongés.
Ça
c'est vraiment une tradition qui est assez spécifique, je pense, aux pays musulmans quand même. En Europe, ça risque d'être quoique actuellement il y a tellement de musulmans que peut-être pour cette population il faut en penser. Comme vous voyez, il y a nombre de kebabs aujourd'hui. Pourtant, les Suisses, ils s'adaptent et ils en consomment aussi. On ne sait jamais.
Est-ce que vous pourriez juste nous donner des détails sur l'architecture d'un Chaïkana?
L'architecture, elle est très simple. Vous avez, la plupart du temps, c'est vraiment un jardin. Un jardin, c'est, vous êtes à l'ombre des arbres, donc où c'est assez tranquille, il n'y a pas de voiture.
C'est un endroit où on peut rêver.
Oui, effectivement, près d'une fontaine, par exemple. Là, je me rappelle encore, en tout cas à Boukhara, si quelqu'un est allé déjà, il peut facilement s'en souvenir, les endroits près de l'Ibi House, en tout cas autour de l'Ibi House, vous avez un énorme réservoir d'eau, éventuellement une trentaine de mètres de long, et autour, vous avez les tables avec, sur les plateaux où les gens sont... s'étalent un peu en enlevant leurs chaussures, par exemple, et en buvant le thé ou en mangeant la nourriture locale.
Est-ce que vous avez des beaux souvenirs dans ces lieux? Est-ce que, étudiant, vous refaisiez le monde à l'époque, quand vous fréquentiez les Chaïkana?
Écoutez, c'est aussi une histoire, bien sûr, pas très lointaine. Je me rappelle encore, comme je travaille comme guide touristique, donc là, j'ai aussi un peu de souvenirs là-dessus, où on profitait, bien entendu, comme les Occidentaux qui découvrent en même temps, et en même temps, il en reste assez souvent, longtemps. Comme il fait chaud à l'extérieur, près de la fontaine, il fait toujours frais. Ouais, donc c'est plutôt un endroit qui attire les voyageurs.
Et qui invite à la rêverie aussi.
Merci Raphaël Rabieff et Christine Bouquet pour ce voyage culinaire. On sait tout, enfin presque tout, sur la fameuse préparation du plov, le plat national ouzbek qui donne vachement envie de manger. En tout cas, on va se mettre à table tout bientôt.
On l'espère.
On l'espère. On compte bien sur vous, Daniel, pour nous l'apporter. Enrichi depuis des millénaires par des anciens commerçants de la route de la soie et des conquérants devenus venus de contrées extérieures de l'Asie centrale. Cette cuisine, on l'a compris, se caractérise par de multiples influences. Daniel.
En effet, Fabien, l'Ouzbékistan, carrefour de l'Orient et de l'Occident, ouais, a accueilli au fil de son histoire des populations grecques, chinoises, arabes, turques et russes, ce qui explique ce melting pot des saveurs relevé par un éventail d'épices comme le cumin, la coriandre, le persil et les poivres.
Et puis en dehors de ces épices, on parlait du hors antenne, hein, de l'huile de coton qui est assez utilisée là-bas et peu chez nous.
Exactement, on la retrouve... j'allais dire en Ouzbékistan, au Burkina Faso, pardon. Mm-hmm. Il semblerait que ce soit une huile indigeste.
Lapsus révélateur,
assez
voilà.
Lourde. Mais assez lourde. J'ai envie de voyage.
Et peut-être saturé. On va chercher toutes ces informations. On ne manquera pas de faire de la promotion de l'huile de coton. Pour vous qui êtes amoureux de la cuisine, n'hésitez surtout pas à contacter Christine Bouquet de la Fazel pour avoir tous les détails et les renseignements. Hein. Ou bien vous pouvez directement consulter l'agenda de la maison de quartier de la Pontaise pour retrouver les ateliers de cuisine et déguster ces excellents repas d'Ouzbékistan. Vous avez toutes les informations sur leur site www. www.lapontaise.ch. On vous met le lien sur notre site. Et puis notez encore que mardi 19 mars, la maison de quartier de La Pontaise vous attend de 18h30 jusqu'à 22h pour cuisiner et déguster des spécialités mexicano-colombiennes avec Omar Bolanos et Ivan Wong.
Qu'est-ce que vous allez nous proposer comme menu au mois de mars ?
Ce que nous propose, c'est du guacamole, des tortillas. On va faire aussi une chili con carne. C'est un peu un mélange mexicain Tex-Mex. Et la partie colombienne, c'est on va préparer des bananes plantain en dessert avec du fromage.
Et comment est-ce que vous avez réussi avec Yvan à vous entendre sur le menu ?
C'est toujours un peu compliqué. On est en train de se mettre d'accord par rapport aux sauces. En Colombie, on n'utilise pas beaucoup les sauces. On ne mange pas trop piquant. Et au Mexique, oui. On est en train d'arriver à un point neutre. Et l'utilisation, on utilise aussi les ingrédients en commun. Mais la manière de préparer, c'est différent.
Ouais, en tout cas, ça donne envie, tout ça. Ça nous met à table. Ça nous met l'eau à la bouche avant de se mettre à table à 18h43. Merci beaucoup, Daniel, pour ce sujet culinaire. Un sujet à retrouver sur notre site django.fm. Dans un instant, on parle littérature doublement dans Cultiver Lausanne.
К чаю вместо крепкого вина Я вам музыку сыграю Здесь всем нравится она на востоке Что за небо без луны на востоке Что за жизнь без чайханы За жизнь без чайханы Яла идет по кругу, аксакалы смотрят в мир Рады гостю, рады другу, здесь застолье, но не пир на востоке, что за небо без луны, на востоке, что за жизнь без чайханы, на востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайханы.
Voilà une chanson d'Ouzbékistan avec un titre qui est pour le moins pas tout à fait évident. Pascal, t'as réussi toi à le prononcer ?
Musicaliana Chayhana.
Ouais, bah, tu es bilingue totalement avec l'ouzbék. Voilà, merci beaucoup. Et c'est l'artiste, c'est qui déjà ?
Plop.
Parfait, 18h46 sur Radio Django, voici Cultiver Lausanne.